Une femme nous a fait appeler. Elle a parlé de clients suspects.
Et si c'était des indépendants?
Chut, putain. Je t'adore, hein? Je t'aime, hein? Tu veux ça?
Si c'était des indépendantistes comme tu dis, tu crois vraiment qu'ils nous le diraient?
Bonsoir, monsieur l'agent. Je suis avec mon ami dans cet hôtel. Et je vous ai vu tout à l'heure dans le couloir. J'étais très, très surpris de vous y voir. Nous allons dîner. S'il y a un problème, dites-moi.
Bonsoir, bonsoir, il est 18h, nous sommes sur Duo Radio en direct à La Villette à l'occasion de la sortie de sa première monographie intitulée People Love War, Data and Travels, publiée aux éditions After Eight Books. Je reçois ce soir l'artiste Neil Belloufa, accompagné de Benjamin Torel, éditeur et cofondateur d'After Eight Books, et Olivier Lebrun, designer graphique. Le point de départ de cette monographie est celui de l'exposition personnelle de Neil Belloufa, Digital Morning, au Pirelli Hangar Bicocca à Milan, exposition toujours en cours jusqu'au 9 janvier 2022. Bonsoir Neil Belloufa, Benjamin Torel et Olivier Lebrun.
Bonsoir Victoire.
Bonsoir Victoire.
Est-ce que tout le monde va bien?
Très bien.
Très bien.
Oui.
Est-ce que dans un premier temps, on peut faire un tour de table et pour parler un peu de, pour vous présenter et parler un peu de vos pratiques pour les auditeurs de Duo Radio?
Honneur à l'artiste. Hein.
Du coup, je suis Neil, je suis un peu artiste contemporain, je fais des films, des expositions. Et ouais.
Benjamin?
Benjamin Torel, c'est moi. Je suis éditeur, là, effectivement, je m'occupe en ce moment essentiellement donc d'une structure qui s'appelle After Eight Books, une librairie à Paris, et donc aussi une maison d'édition. Et le livre qu'on vient de faire avec Nel, ce doit être le 10e livre peut-être qu'on a fait. Voilà.
Et je suis Olivier Lebrun, graphiste. Je travaille pas mal dans le champ du design éditorial et j'enseigne le design éditorial aux Beaux-Arts de Lyon.
Merci. Donc Neil Belloufa, tu es artiste et cette monographie est donc consacrée à ton travail, en tout cas à une partie de celui-ci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous raconter les grandes lignes de l'exposition personnelle que tu as en ce moment au Pirelli et qui est le point de départ de ce premier volume monographique?
L'exposition, elle fonctionne un peu comme le livre. Je ne sais pas dans quel sens l'influence... Mais elle est, c'est une espèce de monographie rétrospective où on voit rien. Il y a toutes les pièces et il y a trois robots qui les allument et les éteignent et qui montent des morceaux et des bribes et qui essayent de les vendre aux visiteurs. Et du coup, on a mis le plus de choses possibles dans l'espace.
Et est-ce que ça a été, du coup, tu l'as dit, on ne sait pas trop lequel a influencé un peu l'autre, mais est-ce que ça part quand même de cette dernière exposition personnelle, cette monographie?
Non. La monographie, elle part depuis beaucoup plus longtemps et elle traîne.
Disons que le projet de la monographie, il datait d'avant l'exposition. Donc à un moment, ça s'est raccordé parce que le Pirelli Hangar Bicocca voulait aussi faire un livre. Et qu'à un moment donné, discuter du livre et de la manière de ce que ça voulait faire, ce que ça voulait dire, de faire cette première monographie rétrospective sur l'ensemble de ton travail, ça a finalement aussi influencé la manière dont tu t'es mis à te poser des questions aussi sur sur ce genre-là, un peu de la rétrospective. Qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de ramasser tout ça dans un espèce d'espace qui permet potentiellement de montrer beaucoup de choses. Et en même temps, en termes d'attention ou de temps, c'est un truc complètement fictif ou artificiel. Donc il y a un peu ce jeu-là, je pense, dans l'exposition. Et,
mais qui est là aussi, en fait, qui est dans le...
Ouais.
Enfin, il y a ce... Ouais.
Donc ça se reflète un peu, ce qu'on peut trouver à l'intérieur de l'exposition et la manière que vous avez eu d'aborder le livre.
Il y a une forme de ping, enfin de joyeuse structure.
joyeuse, non.
Qui sont assez similaires.
Et quand vous avez, oui, vas-y.
Non, du coup, ce qui s'est passé, c'est quand on s'est mis effectivement à travailler sur cette joyeuse structure, l'exposition du Herbie Coca, elle est au début du livre, mais effectivement, comme elle renferme quasi, enfin pas tout, mais effectivement, elle permet de servir un peu de prisme de départ. Donc, il y a un effet un peu de boucle. On la retrouve à la fin, puisqu'après l'exposition de départ qui fait le premier chapitre, cette exposition en Herbie Coca, on revient dans le temps très très loin. Et puis, on remonte jusqu'à effectivement revenir à la fin du livre à l'année donc de 2021 avec cette exposition. Et ce qui est effectivement un peu ce genre de structure dont tu as besoin pour construire un livre de 500 pages et qui, à un moment, au moment où tu l'attrapes, tu l'ouvres un peu n'importe où. Donc, de toute manière, cette structure ne se sent pas nécessairement et renvoie effectivement après à ces questions que tu te posais d'attention, de se demander qu'est-ce que tu déplies, qu'est-ce que tu crées comme élément de compréhension. Et puis, effectivement, un tweak qu'on a gardé, qui était dans l'exposition, qui était que dans l'exposition, tu avais choisi de faire en sorte que les films soient jamais montrés en entier. Et donc, dans le livre, comme effectivement c'est un livre, par contre, on a mis à la fin des accès.
Les accès aux films.
À tous les films. Donc, le livre est aussi une rétrospective dans ta cinémathèque, chez toi.
Et qu'est-ce que ça change, question timing, par exemple, entre le montage d'un solo show et le montage d'un livre comme celui-ci?
Ils ont beaucoup plus travaillé. Non, c'est vrai. Non, le truc marrant, c'est que
en gros, ça a pris combien de temps, la monographie? À peu près entre l'idée, entre le moment où ça a été émis, enfin l'hypothèse a été émise de faire une monographie, et le moment où le livre a été imprimé.
Tu sais peut-être mieux répondre que...
Non, mais enfin... je pense que ça, mais c'est pas des vraies durées, quoi.
Ouais.
C'est un bon terme.
Et c'était nécessaire, ces moments de pause? Donc, de start et stop, est-ce que c'était pour des raisons économiques, par exemple? Je ne sais pas, là, peut-être purement plus éditorial, enfin, le rôle de l'éditeur, c'est-à-dire de rassembler aussi les contributeurs, les financements.
Ouais, mais de ce point de vue-là, ça a plutôt été des faux départs que quelque chose qui était lié à une nécessité de travail au sens le plus fort du terme. Après, il y a des nécessités qui font effectivement de se dire, OK, là... Voilà, on peut avoir à un moment donné... à un moment donné, toi, Nel, quand t'es venu nous chercher, After Eight, donc effectivement, j'ai pas mentionné, je suis pas tout seul à faire cette structure. Il y a quelqu'un qui collabore aussi beaucoup avec Théo Bilanglois, Marco Carotti, et puis Antonia Carrara. Et donc, quand t'es venu nous chercher, Antonia et moi, pas avec ce... Le projet, il existait déjà, donc avec Myriam Bensala, qui est coéditrice du livre. Et effectivement, il y avait un stop que tu voulais, qui demandait un gros redémarrage. Et à ce moment-là, on était encore vachement en amont de l'expo en Herbie Coca, qui effectivement, il y a encore eu plein de péripéties. Enfin, je ne sais pas à quel point c'est intéressant d'en parler, mais disons qu'effectivement, quand tu dis qu'il y a eu un moment de grande accélération, de concentration, c'est qu'après de nombreux faux départs, arrêts, effectivement, le Covid qui fait qu'à un moment donné, c'est plus possible de demander de l'argent à qui que ce soit pour faire le livre. Il a fallu effectivement, je pense que... je pense que le livre, effectivement, on a fini par l'avoir à peu près en octobre. Il est parti à l'imprimeur fin juillet. Je pense qu'au 15 mai, on n'avait encore que 36 pages, un truc comme ça.
Ouais, les fameuses 36.
Ouais, moi, je ne croyais pas que ça allait se faire. Ouais. Je pense qu'il y a une des contraintes que je me suis aperçu avec le livre, plus qu'avec les projets d'exposition, que j'étais hyper chiant. Parce que je répondais, j'aide pas beaucoup les gens, involontairement. Mais effectivement, je ne croyais pas que ça allait se faire.
Et comment t'as chapeauté un peu les choses?
Ah, j'ai pas chapeauté.
T'as rien chapeauté.
Non, justement.
Donc, on t'a fait des propositions. Est-ce que t'as eu quand même des décisions à prendre à un moment dans la monographie, ou est-ce que vraiment c'est les rôles de l'éditeur et des directeurs, directrices de publication?
En fait, ils m'ont imité et ils ont imité le fait que je disais que je ne prenais pas de décision en faisant chier. Donc, du coup, je pense que je n'ai pas pris de décision.
Non, t'as pas été chiant. Enfin, je sais pas, nous, on a, à un moment, on s'est mis à travailler vraiment sur le contenu. Et puis, ça. Moi, je connaissais pas le passif de l'édition. Je regardais plutôt le travail de Nel, passé, présent et avenir. Mais je connaissais pas toutes les histoires. Donc, c'était bien, finalement. Ça me mettait un peu des œillères. Et on s'est mis à bosser. C'est vrai qu'on a fait d'abord une première, un premier chapitre sur ton exposition 2012 au Palais de Tokyo. Et je crois qu'on est resté 2 mois avec ce chapitre comme une sorte de, d'idée. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, chaque chapitre devait être une idée un peu parce que c'est pas un travail qui est linéaire dans le temps. Il y a des reprises, il y a des choses. Et finalement, il fallait que dans le plan éditorial, on puisse comprendre que... Je sais pas, c'est un peu, c'est une matière vivante, quoi, ton travail, qui dans le temps circule, quoi. Donc c'était assez intéressant, et je pense qu'avec Benjamin, ça a posé des questions de rangement.
T'es arrivé à quel moment, toi, Olivier, dans le projet ?
Moi, je sais pas, je faisais de l'autostop sur le bas de côté. Ils m'ont pris là. Non, je sais plus honnêtement. Je crois que assez tard en fait, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas parce que j'ai su après qu'il y avait eu des expériences, ouais. Que ça avait, mais j'en savais rien, j'avais
voilà,
rien
c'est
vu.
Pour ça, on avait déjà travaillé un peu sur les maquettes, sur la maquette à droite à gauche.
Mais je pense que c'était plus
reparti de zéro.
Voilà. Ouais, peut-être reparti de zéro.
Et en fait, je remercie Benjamin parce que j'ai jamais eu accès à ce qu'avaient fait les autres.
D'accord.
Quoi. Donc vraiment, je
t'as pas été influencé
Non. Et puis, c'était plutôt des discussions et des modalités de comment on allait ranger tout ça. Je dirais que le graphisme, il est venu par la suite, quoi. Mais c'était pas à la base une proposition graphique, mais plutôt comment éditorialement trier des gigas de données, 15 ans de pratique. Mmh. Voilà, enfin, c'était un peu ça, quoi. Et puis, il s'agissait de faire un objet qui canonisait pas non plus le travail de Nel, puisqu'il était en devenir. Enfin, j'en sais rien, donc... Je sais pas. Enfin, l'un dans l'autre, ça a été vachement un temps où on a fait quelque chose, de 2 mois, je pense, d'arrêt. Puis ensuite, moi, je vois une période qui a plutôt duré, je la quantifierais sur 2-3 mois, du printemps à l'été, où finalement, on s'est mis vraiment à charbonner. Mais même Benjamin a fait du design à des moments donnés. Enfin, c'était chouette.
C'était un travail d'équipe.
Exactement.
Justement, tu parles pas mal d'incertitude un peu dans ton avant-propos. Est-ce que tu veux nous lire ce texte qui n'est sûr de rien ?
Ouais, voilà, un texte qui a dû être écrit, je pense, effectivement, 48 heures avant d'envoyer à l'imprimeur, je pense. Alors, c'est effectivement un texte qui dit jeu, donc je peux lire. Alors, mais est-ce qu'il va ressembler à Nel, ce livre ? Me demande Camille. Nous sommes accoudés à un bar, le soleil brille dehors. Les terrasses à Paris ont rouvert il y a une quinzaine de jours. Je réfléchis. J'en suis pas sûr. D'ailleurs, le livre est encore loin d'être prêt. Il a cependant plus d'un point commun avec la pratique de Nel Belloufa. C'est un travail qui se fait à la fois au long cours et dans l'urgence, avec la volonté de faire quelque chose qui n'obéisse qu'à ses propres règles, suivant une méthode qui permet de voir les problèmes arriver de loin pour ne pas les résoudre avant le dernier moment. Et surtout, c'est un projet qui n'a de sens que parce qu'il se fait à plusieurs, en se lançant des idées, en voyant comment et où elles retombent, et en faisant en sorte d'aller au bout des meilleures d'entre elles. Un rendez-vous avec Nel Belloufa à son atelier à Montreuil pour travailler sur la couverture aboutit à une impasse. La solution, pas prendre de décision. Laisser tous les éléments en plan, à plat, montrer les règles, les données du problème, les transformer en un jeu ouvert. People love war data and travels, des gens, de l'amour, de la guerre, des données, des voyages. Formulé de manière directe, est-ce qu'il y a dans les œuvres de Nel, est-ce qu'il y a dans ce livre. C'est un jeu sérieux, mais bien que son travail traite effectivement de sujets importants, entre guillemets, je crois que lui-même a horreur du sérieux, à ce que la dimension satirique de ses films, vidéos, installations indique bien. Dans ses archives, des disques durs remplis d'images, de PDF, d'archives, de sites internet, les photographies d'œuvres côtoient des selfies, des blagues d'atelier, des images floues qui ont autant de valeur les unes que les autres. L'art est à la fois toujours là et constamment mis à distance, pour revenir toujours au premier plan, comme une pratique qui engage toute une existence. En travaillant à partir de cette archive, nous avons décidé du cœur du livre. Montrer, raconter comment elle travaille, comment elle expérimente avec des situations, des modèles de production, d'organisation pour inventer et inventer sans cesse ses propres conditions de travail. Il ne théorise pas tant ces questions qu'il ne les met en œuvre, s'ingéniant à y trouver des réponses, quitte à créer de nouveaux problèmes en essayant de construire des solutions. Je ne sais pas, je m'arrête là. Non, ouais, tu veux que je continue ?
Tu peux aller jusqu'au bout.
Ah bah, je fais juste le paragraphe d'après. Le livre montre donc des expositions, des installations, des sculptures, des vidéos, mais il cherche surtout à faire saisir comment elles ont pu être produites. C'est une question politique, c'est aussi une question de pratique. Il y a donc dans le livre beaucoup de photos de l'artiste, ses assistants, assistantes au travail, prises à l'atelier pendant le tournage d'un film sur le montage d'une expo. Les travaux d'étudiants côtoient des pièces présentées en galerie, des projets organisés collectivement à l'atelier, ceux mis au point dans des lieux indépendants, qui sont mis au même niveau que des expositions réalisées dans ce qu'on appelle des institutions prestigieuses. Nous commençons en 2021 avec l'exposition du Pirelli Garbicocca à Milan pour remonter dans le temps. Le parcours est loin d'être exhaustif, mais nous avons voulu qu'elle documente d'une manière ou d'une autre toutes les vidéos, tous les films réalisés par l'artiste depuis 2007. Nous avons laissé des choses de côté. Le livre ne fait qu'effleurer l'expérimentation lancée par l'artiste et ses équipes dans la création numérique, l'élaboration de plateformes, de dispositifs de production, de diffusion, d'interaction avec les publics à venir. Le trajet n'est pas linéaire, nous finissons par revenir plus ou moins là où nous avions commencé. Pas tout à fait sûr, encore loin d'être prêt. Tintin.
Magnifique.
Et ouais. Mais le, enfin le truc qui était rigolo dans le livre, c'est un peu ce qu'il dit là, mais c'est que vous, c'est le enfin, moi c'était agréable pour moi parce que j'ai rien foutu, mais en même temps il y a un truc de jeu, de modèle de travail qui essayait pas de faire un, parce que ce qui a merdé aussi avant, c'est qu'il y avait des cadres,
ouais,
de ce que devait être un livre, enfin de ce que devait être
une monographie.
Ouais, une monographie, et là, les photos des pièces, elles sont souvent moches. La pratique, elle s'y prête mal. Mmh. Et il y a peu de gens que ça amuse aussi de, je pense, de jouer avec.
Mais toi, justement, Olivier, t'as fait un travail assez important sur la retouche d'image.
En fait, pas à ce point. C'est que j'ai proposé à Benjamin très tôt qu'on passe par la rotative, donc une mode d'impression très populaire. Enfin, les journaux, toutes ces choses-là, pensant que c'est une méthode d'impression qui a moins de qualité que l'imprimerie offset, mais qui a la qualité finalement de lisser un peu tous les types de contenus, quoi. Donc il y avait effectivement des vieilles photos, il y avait des photos de photographes d'art, et puis il y avait des photos d'iPhone, mais on avait acté assez tôt avec Benjamin qu'il n'y avait pas d'éléments à niveler par leur qualité photographique, quoi. Et puis aussi, rencontrant la pratique de Neil, de me rendre compte que l'atelier, par exemple, était un élément super important, les gens étaient un élément super important. Donc, c'est pas parce que moi, je te fais un aveu, je connaissais l'exposition au Palais de Tokyo, L'ennemi de mon ennemi, je connaissais pas ton travail dans son intégralité, mais je me rendais compte qu'à travers ce spec, je me méprenais finalement, je découvrais des photos d'Aurélien Moll sur cette exposition, mais c'était pas là l'essence même du travail de Neil, en fait. Donc, il s'agissait pas de créer un catalogue d'artistes à proprement parler, mais plutôt presque un document de travail, quelque chose qui était aussi vivant, enfin, qui était une matière vivante, en fait. Et quelque part, voilà, la technique d'impression rendait aussi l'objet un peu flasque. Enfin, c'était un peu un contre-pied fait à le catalogue d'artistes qui est fait en couverture rigide. Enfin, il y a des choses... Enfin, ayant travaillé des fois dans ce domaine-là, je me rends compte qu'il y a des artistes qui se méprennent dans le fait de faire un projet en faisant un livre, quoi. Et je pense que toi, Neil, c'était pas un projet en soi, ce livre. C'était quelque chose qui accompagnait ta pratique, quoi. Mais c'était pas un... Enfin, là où tu dis que tu as été chiant, pour moi, tu n'as pas été chiant. Enfin, c'est-à-dire, tu n'es pas intervenu en disant, je sais pas, tu fais des sculptures, tu ne voulais pas que cet objet ait une dimension sculpturale, quoi. Tu voulais juste t'inquiéter de ce qu'on mettait dedans, l'un dans l'autre, mais pas...
En fait, voilà. C'est rigolo, parce que je t'ai dit au truc, j'étais plus ému par ça que les projets de travail.
Des expositions.
Ouais, enfin, c'est assez marrant, quoi. Je n'y ai pas accordé de valeur, de valeur affective, ou en tout cas, parce que j'avais rien... Enfin, c'est pas moi qui... C'est pas mon travail, quoi. Mais non, mais c'est rigolo.
Mais est-ce que
non,
ça faisait aussi un état des lieux de ton travail depuis plusieurs années, et est-ce que c'est important aussi à un moment de regrouper, bon, il n'y a pas tout ton travail, mais une grande sélection de ton travail. Mais
c'est plus le passage des gens, les lieux, le flux. Enfin, il y avait un truc là. Enfin, en tout cas, moi, je suis à l'aise avec cet objet. À l'aise parce que j'aime... Moi, je ne crois pas au modèle de fétichisation et de valeur ajoutée et de... Enfin, j'y crois pas. Enfin, c'est ce qui fait que j'ai honte de ce que je fais dans la vie, alors que j'ai une chance inouïe de faire ce que je fais dans la vie. Du coup, là, il y avait ce truc-là où, en fait, il y a des copains, quoi. Et donc, il y a ce flux comme ça. Et là, même le livre, la manière de le faire, ça a été un peu comme ça, quoi. Non, mais sympathique, quoi. Même si moi, parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu les souffrances, du coup. Parce que. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que Benjamin, il a eu des moments où. Parce qu'en fait, on a quand même donné à Benjamin tous les disques durs qu'on trouvait depuis 15 ans, quoi. Avec toutes les merdes, mais vraiment tout. Qui après, ça a dû passer de Benjamin avec un premier rangement de chambre jusqu'à Olivier avec un deuxième. Mais je sais pas ce que je disais, mais ouais. Mais du coup, il y a ce truc sympathique.
Non, mais en tout cas, ce qui était assez clair dans les discussions, effectivement, au moment où Olivier, où on a commencé à discuter du projet, il y avait l'idée, effectivement, de ce qu'on voulait essayer de faire avec ce livre était à peu près posée. C'est-à-dire, effectivement, il y avait ce truc d'un effet d'autorité que tu voulais éviter. Enfin, tu avais, d'une certaine manière, évité de faire des livres pendant 15 ans. Donc, ça voulait aussi dire qu'il fallait que le plan n'était pas de faire d'un seul coup le livre qui fait, voilà, c'est ça le travail, c'est ça cet auteur important. Enfin, donc, l'idée était d'essayer de trouver d'autres moyens de raconter ce que tu as fait. Et effectivement, au fur et à mesure, ce qui semblait assez clair, c'était qu'il fallait plutôt faire cet objet plus fluctuant, plus flou, le moins linéaire possible, et que surtout ce sur quoi on n'allait pas s'accrocher pour raconter la pratique. Et on n'allait pas s'accrocher à des idées préconçues, se dire que parce qu'il y avait une exposition au MoMA, il fallait lui dédier 10 pages parce que c'était hyper important, parce que c'était ça qu'il fallait donner comme critère de lisibilité. Donc d'une certaine manière, c'était effectivement faire confiance à la manière dont effectivement chaque projet a une construction particulière, donc il fallait trouver une manière de la traduire dans le livre d'une façon un petit peu à chaque fois différente. Et faire confiance à ce que tu nous disais quand même, qui était ce qu'impliquaient tes feedbacks, qui était qu'il fallait effectivement montrer des gens des photos des gens au travail, quoi. Des gens qui bossent, des gens avec qui tu passes la plupart du temps quand tu travailles sur ce que tu fais. Donc effectivement, il y a plusieurs chapitres donc sur lesquels on a qui sont assemblés, qui sont un peu sur les lieux d'atelier, où effectivement, je pense que les dernières images que tu as envoyées en disant OK, ce qui manque dans le livre, c'est ça. C'était des images où tu fêtes l'anniversaire de ta fille, je ne sais pas où, dans le New Jersey, et les photos du storage en Bourgogne avec un tracteur. C'était ça qu'il fallait rajouter. C'est ça qu'il ne fallait pas oublier.
Non, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien que moi, l'objet me plaît, quoi.
Ouais, parce
que
je sens la fête, du coup.
Parce que même si ça. Non, mais même si ça, c'est rigolo. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le. Par rapport à un projet d'exposition, c'est beaucoup plus centralisé. Enfin, c'est, je sais pas comment le formuler. Les expositions, il y a une appropriation collective plus possible aussi parce qu'on a l'expérience du travail dans un truc qu'on dilue. Et là, il est un peu, c'est à moi que ça fait le plus plaisir, je pense. Enfin, c'est un truc. Non, mais c'est un truc. Mais en même temps, il y a le truc du. En tout cas, il y a la visibilité qu'en fait, moi, je fous pas grand-chose. Enfin, je travaille avec beaucoup de gens qui foutent beaucoup de choses. Et il y a ce truc de...
Donc là, t'as réussi à lâcher prise sur ce travail.
Non, mais tout le temps, en fait. En fait, c'est la même chose partout. C'est que je fous... Enfin, moi, je papote, quoi. Bah ouais.
OK.
Mais je pense que c'est une qualité de déléguer, quoi. Enfin, c'est une qualité de savoir déléguer. Enfin,
oui, non, bien sûr.
Tu vois, l'exemple que je donnais, c'est que c'est... Enfin, des fois, on est dans des discussions où des gens pensent savoir que... Enfin, savoir, il peut être très horizontal, quoi. Enfin, et là, c'est comme ça que ça s'est passé aussi avec Benjamin. Vraiment, enfin... Je le dis et sans... J'ai pas vécu de souffrance. Non, mais c'est la temporalité, peut-être, et puis des phases de stress liées à des contenus, mais pas liées à des égos ou à des trucs. Quoi, tu vois.
Non, mais effectivement, ce qui était plutôt aussi de l'ordre du jeu à un moment donné dans le fait de travailler sur ce livre, c'est comme il y avait quelque chose clair de ta part, Nel, de dire voilà, en fait. vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je ne veux pas rajouter des faits d'autorité, de dire cette image est tellement importante qu'il faut qu'elle soit plus grande, etc. Donc, à un moment donné, voilà, le travail avec toi, Olivier, il se fait aussi de manière... on peut faire confiance à des questions d'intuition. Enfin, voilà, si à un moment donné, il y a une grille et qu'on a envie de, on a envie de faire une connerie pour qu'elle... voilà, on peut jouer du coup avec ces éléments-là pour aussi recréer ces effets. Là, donc, je parle rapidement dans cet avant-propos, des questions aussi de distance, de montrer effectivement que c'est... ben voilà, qui se joue aussi dans ces questions de création artistique et ce qui fait qu'elles ont du sens. C'est pas seulement parce qu'elles seraient hyper sérieuses, c'est aussi parce qu'elles se font à plusieurs et qu'elles prennent sens dans cette espèce de communauté qui est plus ou moins cachée quand on visite une expo. Y a un des textes dans le livre qui parle un petit peu de ça aussi, là, le texte de oula, ça, du coup j'oublie son nom, Danaï Alvisor, qui est un texte qui parle de ces questions, du coup qui décrit un peu ton atelier, une manière d'y travailler et aussi, du coup, c'est quelqu'un qui avait fait plein de photos, c'est quelqu'un donc, qui fait des études de Sciences Po, d'anthropologie, donc qui a été embedded dans ton atelier pendant assez longtemps. Donc, il faisait des photos pour son travail d'analyse sociologique de ce que c'est un atelier.
Après le Yémen.
Voilà. C'est ça.
Il fait 3 ans au Yémen et après, il a fait l'atelier.
Et du coup, on a beaucoup aussi utilisé des images qu'elle nous a très généreusement aussi données pour le livre, ce qui permettait aussi d'enrichir la documentation du travail de cette espèce d'ensemble de photographies, aussi de vidéos qu'elle prenait des fois à l'atelier pour montrer avec un œil qui était celui de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe dans un atelier d'artiste, quoi.
Est-ce que, Olivier, tu peux revenir un peu sur ton travail de maquette parce que j'aurais beaucoup aimé voir le fichier.
Ouais, c'est vrai.
Tu te rappelles?
Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça.
On a dû décaler l'émission.
Tu m'as dit ça une fois. Tu voulais voir le fichier. Voilà. Non, écoute, la maquette, elle est...
Mais un peu décrire, si tu veux, le chemin de fer.
Il n'a pas fait le chemin de fer.
YOLO.
Il n'y a pas de chemin de fer.
YOLO.
Pour les auditeurs de TU, en fait...
Les graphiques geeks.
Voilà. Exactement. Le format, tu vois, il y a un moment, il y a des changements de papier. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que tu as laissé l'imprimeur décider? Je sais pas.
Non, en fait, voilà. Alors, comment dire? En fait, on a pas mal discuté avec Benjamin de l'objet, enfin, dans sa matérialité, dans son économie aussi, parce que c'était une réalité. Benjamin, au-delà de manier les textes, manier les chiffres, et il savait très bien, enfin, globalement, où on allait. Personnellement, quand je travaille, j'essaie de rendre les livres accessibles, donc ça veut dire aussi qu'ils aient des... Enfin, en tout cas, on s'entendait sur ça, quoi, mais qu'ils aient des prix de vente qui soient du domaine du raisonnable, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, on partait, je pense, on ne savait pas que ça allait faire 512 pages, mais on partait sur un volume assez conséquent. La taille des pages était faite pour accueillir finalement un maximum d'images, même si... moi, des fois, je rechignais parce que j'y arrivais pas à en mettre plein. Benjamin me poussait, puis finalement, ça marchait, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait un truc... je pense qu'on était comme un peu un film français où deux héros s'aident un tout petit peu à faire des choses, quoi. Mais des héros cheap, quoi. Et je sais pas, l'un dans l'autre, les choses ont commencé à s'assembler. Puis à chaque fois, avec une surprise que le chapitre qu'on venait de faire allait être différent du celui qu'on avait à faire. Donc finalement, fallait que ce soit un petit peu fluide et pas rigide. Et ça tombe bien parce que enfin, je suis pas un maître de la grille. C'est peut-être pour ça que je t'ai aussi pas envoyé les fichiers. Tu verras que c'est pas si intéressant que ça. J'aime bien le bricolage. Je crois que je me suis retrouvé dans des images qui ont circulé de Nel aussi dans ce côté... on voit des cimaises apparentes d'expo passées ou des choses de la destruction, j'en sais rien. Enfin, personnellement, et je le dis, je travaille pas sur un graphisme qui est séduisant. Enfin, je préfère limite que ce soit des trucs quasi déceptifs, quoi. Les choix typographiques vont dans ce sens-là. Et pardon, non, mais... je sais pas, je me sentais l'un dans l'autre assez proche de ce travail-là. Je dis pas que c'est un travail déceptif.
Si, mais je comprends ce que tu viens de
dire. Tu vois, non, mais
et
enfin...
les typos, tu les as choisis comment, justement?
Bah, alors,
parce qu'il y en
alors,
a une...
Tu veux que je t'explique?
Si on les... il faut les nommer. Il y en a une de Charles Mazet, c'est
exactement.
La Mercure, et puis la VV de Clément Piontech.
Alors, on y va. En fait, la VV de Clément Piontech, elle a été passée... comment dire? Clément Piontech est un typographe basé en Suisse, et c'est un artiste qui s'appelle Sam Porritt, qui lui a passé une commande pour une expo. Et je trouvais... intéressant et assez pernicieux de prendre une typo qui avait été commandée par un artiste pour faire le travail d'un autre artiste. C'est un peu fumeux, mais je trouvais ça intéressant.
C'est du piratage, en quelque sorte.
Non, mais c'est déporter quelque chose, quoi, tu vois. Et en fait, cette typo, elle s'appelle la VV positive, et dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle doit rendre les choses négatives positive. Et donc, comme Neil aussi a un travail autour du flux, autour de ces choses-là, je la trouve intéressante. Elle n'est pas séduisante en soi, mais elle m'intéressait pour ça. Elle a une valeur un peu conceptuelle qui m'intéresse, quoi.
Moi, je ne connaissais pas l'histoire, mais on a eu des questions sur cette typologie.
Pourquoi ça ?
Je sais pas.
Non, pourquoi ça ? Non, mais aussi de le dire. Bah, moi, du coup, je savais que dans les codes graphiques, de mettre tel ou tel typo, ça pouvait cantonner le travail de Neil à telle ou telle chose. Et finalement, j'avais envie de, comment dire, m'affranchir de références graphiques par rapport à son travail d'artiste, quoi. L'autre typographie de Charles Mazet, finalement, elle est plus savante dans son emprunt fait, je crois, au 19e siècle. Elle est faite par un Français et ça m'intéressait pour un artiste français d'utiliser une typo faite par un Français. C'est mon côté Montebourg. Mais en fait, c'est très conceptuel dans les idées. Et après, dans la forme, bah, je dois me démerder avec les idées que j'ai eues, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Et la typographie de Charles n'était pas encore sortie. C'était aussi une manière de tester, de l'éprouver sur la rotative. Donc, c'était presque de me servir un peu du catalogue pour faire un spécimen. Enfin, voilà. Mais je trouve que l'un dans l'autre, ça déporte aussi des propositions. Ça déporte des formes de langage. Et... je te le dis, je me suis retrouvé en mettant en page le travail de Neil en me disant, mais finalement, ça fonctionne, quoi. C'est pas dire que c'est juste, mais c'est une proposition à proprement parler. Puis c'est des gens qui, du coup, nous les prêtaient, on n'avait pas à les payer. C'était quelque chose d'assez honorable. Et ensuite, vraiment, j'insiste sur ce truc que l'impression en rotatif fait qu'il y a des tâches à des endroits. On n'a pas plus ou moins. Enfin, on a fait un petit peu de photogravure pour ceux qui nous écoutent et qui savent ce que c'est, c'est-à-dire le réglage des images. Mais vraiment, c'est 20% même pas de toutes les images. Et puis, on s'est dit, mais en fait, allons-y, quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, je leur dis, c'est un travail dont je suis vraiment très content, non pas sur le plan du graphisme, mais sur l'énergie qu'il embarque, quoi. Parce que je pense que, je sais pas, on sortait aussi d'un Covid un peu chiant, de confinement, trucs comme ça. Et finalement, Benjamin est venu à l'atelier pas mal de fois. Neil aussi, à quelques occasions. Mais toujours, c'est marrant. Enfin, en s'excusant de ne pas, et d'expérience que j'aurais eue, c'est que justement, j'ai travaillé avec des gens qui étaient des fois hyper présents et qui voulaient pas lâcher prise, pensant qu'ils étaient en train de modeler une de leurs pièces. Et en fait... Je pense que aussi de le dire, Benjamin avait une connaissance du travail de Neil, où il me disait des fois, bon, bah, calme-toi, Coco, ou non, enfin, vas-y dans ce sens-là, ou tiens ça, on pourrait essayer. Et c'était plutôt du côté fais-en plus que fais-en moins. Et du coup, j'avais pas une posture, je crois pas avoir non plus en tant que graphiste une signature graphique. Je suis intéressé par l'enchaînement des contenus, je suis intéressé par ces propositions un peu conceptuelles. Et je pense que, enfin, on s'est bien rencontrés sur ça, on se connaissait avec Benjamin de le dire, de diverses aventures, mais on n'avait jamais travaillé ensemble finalement. Mmh. Et merci, je te le dis. Merci à Antonia aussi qui avait des avis.
Non, c'était, c'est...
non mais, c'était, mais c'était bien. En fait, je sais pas comment dire. Enfin, je le dis vraiment, l'objet, je le regarde pas tous les jours, ça y est, c'est fait. Mais quand je l'ai eu, je me suis dit, en fait, c'est cool. Il y a des traces d'impression, il y a des images qui sont trop rouges à des endroits. La typo, peut-être qu'elle est... voilà. Mais en fait, juste ce que ça embarque, ça me va. Enfin, voilà, je le dis.
Et puis le typographe, il a quand même... À chaque fois qu'on avait besoin d'un caractère spécial, il a répondu présent.
Exactement.
Y compris quand il s'agit d'écrire un arbre.
Ouais.
Et voilà, qui était... voilà, ça se fait quand même bien.
Comment elle s'est passée la co-direction de publication avec Myriam Mentala?
Disons, Myriam avait surtout... Enfin, au moment où on a repris au moment où j'ai commencé à travailler sur le projet, Myriam, elle avait déjà fait une partie du travail, qui était notamment de travailler avec une partie des auteurs sur des commandes de texte. Et en même temps, à ce moment-là, c'est le moment où elle a commencé à peu près à travailler à Renaissance Society aux États-Unis. Donc le travail, ça a été effectivement... Plutôt, du coup, c'est moi qui ai fait l'essentiel du travail qui ai fait le travail avec Olivier, vraiment de conception, disons, du livre en tant que tel. Et on a plutôt continué à discuter ensemble de la structure, et surtout ensuite, voilà, de continuer sur ce qu'elle avait commencé par rapport au texte. Et moi, ensuite, il y a eu deux textes qui ont été commandés, qui se sont ajoutés par la suite. Voilà, il y a un texte qu'elle a écrit, qui était un texte qu'on a repris, en fait, qu'elle avait fait sur une exposition de Neil, à peu près au début du travail sur le livre, je pense. Et voilà, donc du coup, c'était effectivement, ouais, une partie du travail était un peu plus un passage de témoin avec une continuité dans les discussions. Mais voilà, c'est ça que je peux dire.
Neil, dans une interview pour Click Report, tu dis un truc comme ça. Que le spectateur ne soit pas d'accord avec moi, c'est pas un problème. Est-ce que tu penses que dans une proposition qui est celle du livre et donc d'un objet qui est relié et façonné, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu engages, enfin où tu, le spectateur a, ou le lecteur plutôt a plus vraiment le choix de prendre en pleine face tes engagements politiques
Par contre, ça, du coup, j'ai eu hyper peur de cette... Donc, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par cette phrase.
Tu parlais de ton exposition au Palais de Tokyo.
Oui, mais du coup, l'exposition au Palais de Tokyo, elle proposait pas grand-chose frontalement.
L'exposition L'ennemi non ennemi, c'est
ouais.
ça
Ouais. Et non, mais je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est pas avec moi, mais c'est que qu'on soit pas d'accord, c'est cool, quoi. Mais parce que moi, je propose rarement frontalement. Enfin, ou sinon, ce que je propose, je fous un nuage autour qui fait qu'en fait, c'est assez dur d'être sûr de ce qui a été dit. C'est une forme d'autorité. Si c'est ça la question, il y a une forme d'autorité parce que c'est hyper dur de choper. C'est ça un peu, quoi,
ouais,
que tu veux
ça.
Dire? Moi, c'est ma manière de me défendre, ouais. en fait, de fonctionner dans la vie, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec le truc de on est tout transparent sur Instagram et que notre vie, elle est publique et qu'on dit ce qu'on fait et qu'on fait du truc performatif ou en disant moi, je suis engagé, je fais un truc parce que c'est des conneries, quoi. Enfin, c'est de la communication
Et justement, le livre, c'est un objet qui va être
Il me protège, en fait. En fait, ce qui est rigolo, c'est moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai un de mes galeristes qui a aimé le livre, parce qu'il suit la pratique et qu'on est amis. Mais il m'a dit, mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Et en fait, en gros, ce que j'aime bien, c'est que c'est un outil de protection qui permet ni de promouvoir. Enfin, c'est-à-dire que les institutions ou les galeries les gens avec qui je travaille ils poussaient pour avoir des outils de puissance depuis longtemps. Et j'ai bloqué, parce que ça m'intéressait pas trop et que j'ai du respect pour les livres, quoi. Et ce qui est rigolo avec cet outil, c'est que c'est pas un outil de puissance. Par contre, effectivement, il n'y a pas un truc de... Il est assez flou pour me permettre de continuer à vivre, quoi. Enfin, c'est pas une tombe. Il n'y a pas de...
Et est-ce qu'on pourrait envisager une prochaine monographie en NFT?
Bah, je serais plus là. Peut-être, je sais pas.
Sur Terre Tu comptes mourir à
je sais pas, la semaine prochaine.
Non, à un moment donné, on s'était dit, on pourrait faire une... comment on appelle ça?
Est-ce qu'on peut expliquer juste pour les auditeurs ce que c'est les NFT? Neil.
Ce mot, il va disparaître d'ici 6 mois, 1 an. Mais en gros, on a tous un problème dans notre vie, qui est qu'on a 400 000 mots de passe sur un fichier Excel. Qu'on les perd, que ça marche mal, en fait, notre truc. Et il y a une technologie qui va faire qu'on va avoir des trucs qui s'appellent des NFT, qui vont être les clés d'accès à tout dans notre vie, et qui vont faire des systèmes de contrôle assez violents, sauf si les gens marrants s'y investissent et essaient d'en faire des outils un peu rigolos.
Ouais, et du coup, est-ce qu'on pourrait concevoir un livre en NFT?
Non, mais par exemple, de donner un accès... Enfin, moi, c'était les conversations qu'on avait, mais je crois beaucoup au système d'accès, parce que je pense que c'est ce qui va... Enfin, les tickets de métro qu'ils sont en train d'enlever, c'est parce qu'ils vont nous envoyer des tokens de tickets de métro, enfin, des NFT, sans qu'on le sache, sur des apps ou sur des cartes à la con, pour faire le truc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça prend pas tes données ou ton nom et ton prénom.
Donc... Mais en même temps, est-ce que d'un côté, ça ferme pas...
ce que je veux dire, c'est que ça va. C'est, en fait, moi, il y a un moment, je voulais pas de téléphone portable et j'ai refusé les réseaux sociaux. Et ça a été deux choses dans ma vie où finalement j'y suis allé en reculant et que j'ai finalement vécu avec ces merdes. Donc le truc, c'est que là, il y a un nouvel outil ou une nouvelle technologie, une technologie qui s'affirme, qui va être dominée par des connards. Sauf si on joue avec. Donc moi, je joue beaucoup avec ces choses parce que cette fois, je veux pas faire la même chose que j'ai fait tout le temps dans ma vie.
Est-ce que c'est uniquement un échange en crypto-monnaie ou est-ce que c'est un échange...
Non, mais c'est une manière juste d'être payé quand on travaille, quoi. Donc là, du coup, plutôt que de faire un PDF sur Amazon, on met une gate ou un truc ou un coût d'entrée pour valoriser l'objet de travail pour pouvoir y avoir accès, c'est intéressant. C'était ça, les idées quand on truc, mais...
Disons... Après, toi, effectivement... toi, tu arrives à trouver aussi des manières de lier ça à des objets physiques. Donc, à un moment donné, la blague était de se demander, enfin, la blague ou le jeu était de se demander si le livre pouvait aussi être, à un moment donné, voilà, à côté d'un livre physique, pouvait y avoir effectivement un token qui serait une version du livre qui parle, ou mais ça aurait remplacé effectivement un gadget qui aujourd'hui n'étonne personne, qui est l'idée qu'il y ait des éditions de tête de livres. Mais c'est aussi peu intéressant d'avoir une édition de tête sur un papier vélin, je ne sais pas quoi. C'est aussi peu intéressant d'avoir ça que de te dire que tu as un token. Enfin, je veux dire, ce n'est pas aussi peu intéressant. C'est la même chose. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose qui appartient à une histoire qui a 500 ans, qui est de se dire que c'est bien de tuer certains veaux pour faire certaines couvertures.
On aurait dû.
Et que du coup, ça fait un livre qui serait censé être plus cher. Mais aujourd'hui, tu peux dire, bah voilà, en fait, la valeur ajoutée, ça va être... un jeton ou un type de contrat qui existe en ligne. Donc, qui effectivement n'ajoute rien à l'objet lui-même, mais peut ajouter à sa valorisation par un autre système et qui potentiellement pourrait effectivement ensuite être un point d'entrée. Si on se disait qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tu achètes le livre, tant que les QR codes existent...
En fait, c'était ça la blague. Ah. C'est que là, on met les films
avec les QR codes.
Dans les trucs. Moi, je les cache, mes films. Et puis c'est là on les met dedans. Donc du coup d'une transcription digitale en fait devrait être rémunérée à la fois pour le livre et le travail qui a été fait. C'était par rapport à ces trucs-là et on aurait pu en faire un bonhomme qui parle ou une blague quoi.
Oui oui. Je sais que sur la couverture on y avait pensé.
On avait pensé à faire pas.
On va faire les liens. On peut encore le faire.
C'est encore possible.
Mais tu nous lis un extrait de la monographie.
Ouais, mais je vais faire comme toi, j'ai bien aimé ta phrase de dire, comme il y a écrit je vais faire ce que je... Donc moi, j'ai une participation d'un texte qui a été écrit en 1997 dans le truc. Et donc cette participation, ma participation active au livre, donc c'est un press release pour une expo qu'on avait fait à l'atelier quand on avait un espèce de centre d'art. Je crois que dans cet espace, il y avait une cristallerie, qu'on y a ensuite construit des méharis, ça rime, avant de produire des machines pour conditionner les liquides, puis des décors de films. Il y a certainement eu du stockage aussi, peut-être même un brocanteur et des tournages avant que le lieu ne se transforme en atelier d'artiste. Beaucoup de choses s'y seraient passées, un incendie, une course de roller, un épisode de Julie Lescaut, un poulet grillé, je sais pas, des émeutes, précédant sans doute la construction prochaine d'un siège social ou d'un quartier résidentiel. Ces activités avaient participé à la mutation du quartier, avec aujourd'hui les artistes pour agents. À leur insu ou pas, ils participent à l'extension de la grande ville, repoussant frontières et populations, avant de devoir à nouveau reproduire plus loin ce schéma. De ces mouvements involontaires, où construire une chose revient à amorcer sa destruction, il reste maintenant un hôtel, c'est le décor du film. Ces alentours transformés en espace d'exposition présentent des travaux d'artistes qui sont passés par ici. Leurs œuvres résonnent peut-être avec le processus paradoxal dans lequel leur production a été permise. Et si cet état temporaire de centre d'art de 530 mètres carrés venait à perdurer comme le monument d'une allégresse passée, ça n'est pas uniquement qu'il aurait résisté, c'est aussi que la gentrification aurait fonctionné. L'essentiel étant de faire, c'est la vie. C'est très mal écrit.
C'est bon.
Donc ça, c'était le centre d'art. Enfin, on a écouté au début le générique que tu avais mis au début de l'émission. C'était effectivement la bande-annonce du film qui s'appelait Occidental.
Ouais. 2018,
voilà. Qui donc ouais. Le lieu de tournage qui était effectivement un hôtel était ensuite devenu un lieu un artist run space quoi,
en 2016 ou un truc comme ça.
Ah, et donc ça c'était les press release de la première expo qui avait été faite.
C'était le premier. Ouais. Ouais.
Et donc du coup il y a tout un chapitre dans le livre qui à la fois montre la construction du décor de l'hôtel
et la transformation en espèce de centre d'art.
Voilà. Et donc du coup montre un peu aussi des vues d'œuvres d'expos là-bas de fêtes et de vernissages, tout en parlant également du film Occidental.
Parfois, j'ai du mal un peu à saisir, enfin, entre la monographie, les expositions, ton travail de film, où est la limite, ou en tout cas, l'existence du monde réel, tu vois ? Je n'arrive pas à savoir, en fait, à quel moment les deux sont dissociés, parce que En tout cas, quand je vois les images de l'exposition au Pirelli, je me dis que il y a quelque chose de tellement réel en fait dans l'atmosphère de cette exposition, tu vois, de ce qu'on vit aujourd'hui à travers justement les réseaux sociaux, le numérique, tous les objets. Je ne sais pas quelle distance il y a vraiment entre le monde réel et ce que tu donnes à voir, toi, dans ton travail et dans tes expositions.
Moi j'aime bien faire des projets qui répondent tactiquement à l'environnement qu'ils veulent critiquer, mais enfin critiquer dans le sens discuter, quoi. De jouer un truc d'espèce de miroir... J'ai pas envie de dire enfin Black Mirror, quoi, mais un espèce de miroir un peu à la con, mais qui est pas négatif ou je sais pas quoi, mais de faire un, ouais, de pousser une mécanique dans laquelle je suis un, donc là Pirelli, c'est enfin je voulais pas faire l'exposition, il y avait le Covid, ça me faisait chier, on parlait d'économie, ils ont fait le virement le 29 décembre du budget de l'exposition qui arrivait le 31, le budget était microscopique, il est arrivé à un moment où j'ai payé des taxes dessus, j'étais en crise économique, l'expo elle allait ouvrir, il n'y avait personne qui la verrait, de toute façon quand on m'a demandé de faire une espèce de rétrospective, de montrer 40 films, il n'y a personne qui les regarderait, il y a eu un moment où il y a eu une perte de sens hyper violente où on me demandait de me déplacer, de mettre de l'énergie dans un truc qui servait profondément à rien. Mais après, là je dis ça, mais j'adore ces gens, je suis très content qu'ils m'aient poussé et ça s'est très bien passé.
T'es content de l'exposition?
Ouais, je suis très content. Mais du coup, on a fait une stratégie pour de travail parce que, en plus, enfin moi j'ai pas réussi à m'investir dans cette exposition parce que on m'a demandé de faire une rétrospective. Du coup, j'avais rien à faire en fait. Enfin, c'était en gros, c'est construire ta tombe. Et non, mais c'est vrai quoi. Non, mais parce que la période du Covid, c'était quand même un truc où moi, j'ai reçu que des invitations à filmer mes enfants, faire des recettes de cuisine, parler. Genre, il n'y a personne qui voulait que je travaille, quoi. Et du coup, après, j'ai une exposition qui va ouvrir alors que personne ne peut y aller, où on me demande de montrer tout ce que j'aurais fait et d'être intéressé par le fait de regarder mon truc. Donc, il y a eu un... Donc là, on a fait une stratégie qui a été de représenter ça. Donc de partir du postulat que personne ne regarderait de toute façon. Donc on en a fait une espèce de boîte de nuit programmée et on a fait trois bonhommes qui reproduisaient ce que moi je me tapais sur les réseaux sociaux. Donc il y a un bonhomme de droite, un bonhomme libéral, un bonhomme progressiste qui essaye de vendre mon travail en montrant que deux secondes, quoi. Et après les gens, s'ils veulent, ils ont un... Mais donc c'est un...
Ils ont quoi? Le QR code?
Ouais, ils ont des QR codes. S'ils veulent, les gens, ils cherchent le code du QR code pour que ça soit un peu privilège. Mmh. Mais... Que ça renvoie chez eux s'ils veulent regarder des choses, parce que finalement, peut-être que c'est l'endroit où on peut regarder une connerie, quoi.
Et c'est pour ces raisons aussi que t'as mis que les QR codes sont à la fin du livre pour regarder les films?
Bah là, du coup, c'était rigolo de dire c'est un bouquin, mais c'est un... En tout cas, moi, c'est même de mettre les liens des films alors que normalement, je les planque. C'était aussi une manière de moi m'investir dedans, enfin, ou d'y mettre une valeur, quoi.
Et est-ce qu'il y a une date limite sur ces... Parce que un livre, ça se garde toute la vie. Bah alors, si on veut.
Au-delà du fait que peut-être qu'un jour les plateformes sur lesquelles les trucs sont hébergés seront fermées, mais je pense que ce sera moi qui vais mettre un prix dessus un jour. Le jour où j'aurai assez de gens qui s'intéresseront à regarder ces trucs, j'essaierai de gagner un euro par visionnage.
Non, je pense qu'il y avait aussi ce que tu dis dans l'expo sur le. C'est un truc moi qui m'intéresse aussi ce type de livre, la monographie. Se dire voilà, quel travail tu fais quand tu édites ce genre de livre? Est-ce que tu... faire le maximum pour que le livre ne devienne pas effectivement ce que tu dis, une tombe ou le truc qui dit c'est ça qu'il faut penser sur l'artiste, c'est ça qui est vrai, c'est ça qu'il dit. Et d'ailleurs, on a trouvé les meilleures personnes pour vous faire comprendre que ce qu'il dit, c'est ça et c'est super intéressant et tout le monde sera content à la fin. Enfin, d'une part, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans l'art. D'autre part, je ne crois pas que ce soit ça qui est intéressant de lire dans un livre. Hein, quand tu dis... un livre, effectivement, c'est plus intéressant si on peut se poser des questions en même temps qu'on lit ou si ça peut faire réfléchir à d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre. L'idée, par exemple, il y a finalement beaucoup de contributeurs dans le livre. Il y a des textes qui essaient de dire des choses sur les pièces, mais qui essaient vraiment de le dire en ouvrant au maximum les choses, qui n'essaient pas du tout de dire, c'est ça le point et point final. Et dans l'expo au Merbi Coca, il y a effectivement ces trois entités, qui sont aussi des NFT d'ailleurs, qui effectivement ont l'air débiles et disent comme si, ont des arguments pour dire, l'œuvre de l'artiste, c'est ça, d'ailleurs j'ai cette preuve, c'est cette vidéo. Et donc elle s'annule à un moment donné, puisque les trois disent, disent des choses très différentes, mais parlent du même travail. Donc à un moment, ça c'est pas relativiste dans le sens où plus rien n'aurait de sens et tout fout le camp, ma bonne dame. Mais au contraire, ça dit, bah voilà, en fait, il y a un travail à faire, toi, spectateur. Enfin, c'est une question d'interprétation. C'est aussi ton travail de se demander ce que ça veut dire, où est-ce que tu te situes? Qu'est-ce que c'est pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce que c'est ton investissement là-dedans? Comment tu te positionnes? Qu'est-ce que c'est ton. Est-ce que ça va te préoccuper et combien de temps tu peux y accorder d'attention et à quoi ça va te faire penser? Et quand tu fais un livre, c'est aussi un peu ça le deal, quoi, de faire en sorte que t'imposes pas une pensée là-dessus, mais tu donnes effectivement un maximum de clés.
Donc là, la monographie, ça peut donner des indices sur la manière de regarder le travail de Neil.
Ouais, mais ça peut aussi donner des indices sur la manière dont on peut se marier avec, quoi. Il y a effectivement, Olivier a fait plein de blagues dans le livre. Donc, qu'on peut trouver ou pas, quoi.
C'est ma effectivement, signature.
Non, mais je sais pas, à un moment donné, effectivement, bah voilà, Nel fait des briquets pour son film. Donc, il y a voilà, on peut chercher les cigarettes dans le livre, par exemple, parce que Nel est un grand fumeur. On peut chercher tout ça, quoi.
Il y a des choses qui se disséminent. Après, de le dire, par exemple, sur ces QR codes, finalement, on aurait pu les mettre en entrée, ça résumait le livre, puisque finalement, c'est un livre qui cherche à montrer un travail à travers des captures d'écran de films qui existent, mais on a délibérément souhaité les mettre tout à la fin, en se disant qu'il fallait que le lecteur, il éprouve. Il fallait qu'il les passe ces 512 pages pour accéder.
C'est une récompense.
Exactement. Le rendre proactif, mais c'est comme la couverture, je pense, avec ses autocollants. Finalement, il lui appartient ou pas de les mettre dessus, mais ouais, c'est une histoire que lui raconte. C'est pas à nous de la raconter à sa place. Enfin, moi, j'aime aussi cette notion-là de lecteur actif, quoi, ou lectrice. On va pas le prendre par la main et lui expliquer tout, quoi.
Résumer un film en un texte et, des 16 captures d'écran, c'est un truc assez excitant à faire parce qu'à un moment donné, on se demande quelle image récupérer. Effectivement, aujourd'hui, tu peux le faire. Voilà, c'est aussi des choses qui se font. Juste en faisant des captures d'écran sur un ordinateur. Donc, c'est aussi un truc assez drôle à faire, de se demander qu'est-ce que tu arrives comme image. Nel, à un moment donné, me disait, mais toi, tu prends que les images, c'est pas du tout les images que je change. C'est quoi ce que tu choisis, quoi? Ça n'a aucun sens. Donc, il y a un truc, effectivement, on essaie de donner sens en 8 pages à un résumé d'un film. Mais voilà, l'interprétation, c'est aussi, voilà. Donc, il y a une petite interprétation qui est faite par 2, 3, 4 personnes. Enfin, on travaille sur ce livre. Et puis, à un moment donné, bah, voilà, si tu veux regarder le film, tu peux regarder à la fin. C'est ouvert aussi de cette manière-là, quoi. Mais je t'ai empêché de parler.
Pas du tout.
Si, t'allais dire un truc.
Non, j'allais dire, effectivement, le truc de spectateur-acteur, en tout cas, moi, dans les expositions, c'est aussi ça que je veux... Enfin, je veux avoir des relations avec les gens, en fait. Parce que sinon, je ferais de la politique, quoi, ou de...
une annonce à faire.
Et in fine, pour reprendre un peu l'intro, est-ce que ce livre ressemble à Neil?
C'est à Camille qu'il faut demander.
Alors ça, moi, ce truc, ça m'a vachement vexé parce qu'en fait, tout le long, il y avait ce truc-là. Et du coup, les gens me parlent du livre parce qu'en fait, en gros, ils le prennent, ils font ça. Et après, ils te disent, il te ressemble. Et tu dis, en fait,
cette blague,
c'est que le truc, tu fais comme ça et t'as pas compris ce que t'avais vu. Ou... Donc, ce truc-là, moi, je suis assez.
Ok, c'est pas le meilleur truc.
C'est pas le meilleur.
Non, pour moi, ça renvoie un truc assez. Enfin,
pour le gagner, voilà.
Je suis vert mou avec du papier type.
On peut te coller des autocollants dessus. Tu diras rien.
Non, mais tu vois, il y a des artistes dont tu vois la pratique, elle est faite pour. Ils pensent. Enfin, voilà, tu peux tout de suite là en faire un livre. C'est bien rangé. C'est effectivement. C'est. Il y a des chapitres. Il y a des. Voilà. C'est déjà organisé. C'est pas le cas de Nel. Donc du coup, effectivement, c'est le
bazar, c'est moi.
Mais en même temps, effectivement, le livre doit trouver une structure à un moment donné qui est pas forcément la même que la sienne. Je pense surtout qu'au moment où le livre paraît, il a déjà, il a déjà du retard sur ce que tu fais. On le savait. C'était aussi ça l'idée. C'était pas de se dire voilà qu'à un moment donné. Enfin, que ça ne se sente pas aussi, mais que tu as un truc de enfin, ce que tu dis, quoi, ce truc de flux, etc., qui fait que le livre ne doit pas donner l'impression que c'est fini, mais aussi de se dire qu'il accepte aussi d'être assez vite en décalage par rapport à ce qui te préoccupe. Et effectivement, ces histoires de voilà, il n'y a pas un texte pour tout comprendre aux crypto-monnaies dans le livre. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on l'aurait édité en 2021, le texte sumérien aurait
été très caduque.
Donc voilà, c'est pas non. Donc tout ça est très bien.
L'émission touche à sa fin. Vous voulez dire un dernier mot sur la monographie de Neil? Elle est disponible chez After Eat Books.
Mais dans toutes les bonnes librairies, comme on dit.
Les poirelets dans les gares aussi.
Ça serait superbe. Ça serait superbe.
Non, mais on peut quand même dire, ce qui manque au livre.
C'est quoi qui manque au livre?
Les remerciements.
Non, mais ouais.
C'est rare.
Il y a une partie qui est entamé, mais qui finit dans la reliure, en fait.
Ouais. Mais ça, c'est effectivement... C'est,
parce qu'on les attendait.
On les attendait, ouais.
Donc là, c'est un reproche, en fait, camouflé. C'est ça, le truc de ouf.
C'est ça qu'il faut dire.
On les attend toujours.
En fait, c'est un coup de pression. Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens à remercier pour la pratique. Et il y en a vraiment beaucoup. Et à qui je dois beaucoup de choses. Et puis, il y a eu une première conversation à un moment. On m'a demandé de remercier les gens. Je dis ouais, je le ferai. Et puis après, 3 mois après, une semaine donc avant l'impression du livre, j'ai dû faire une liste que je n'ai pas réussi à faire. Ah. Voilà. Et donc, merci beaucoup à tous les gens à qui je dois des remerciements.
Ils se reconnaîtront.
Ils se reconnaîtront. C'est ça qui est beau. Ouais.
D'autres choses à déclarer?
Moi, un mot qui me venait, c'était cataloguer n'est pas canoniser. J'ai pensé que c'était le
tatouage.
Exactement.
De la fin.
Non, mais Benjamin l'a dit. C'est vrai que quand on publie quelque chose, en fait, c'est vite dépassé à partir du moment où c'est imprimé, quoi. Mais
Si on le pense en série, peut-être.
Je sais pas. Vous voulez de moi? Non, j'en sais rien. Je vous envoie. Non, mais non. Après, je sais pas. Enfin, c'est des prolongements. C'est des choses qui vivent, quoi. Je trouve ça. Enfin, voilà. Intéressant.
Merci Neil Belloufa, Olivier Lebrun et Benjamin Torel. On se retrouve bientôt sur Dure Radio.
Merci Victoire.
Merci.
Bonsoir, monsieur l'agent. Je suis avec mon ami dans cet hôtel. Nous allons dîner. S'il y a un problème, dites-moi. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur l'agent?
Elle nous a flairé à 200 km, c'est pour ça qu'elle appelait les flics.
Elles sont les choses, elles sont les gens.
C'est pas un chien, quand même.
Je te parle d'intuition féminine.
Vous aviez raison. Ils ont pas l'air d'être italiens.
Mais avec les Chinois, on a moins de problèmes.
Tout à l'heure, il m'a parlé ni en portugais, ni en espagnol, ni en français.
Arrêtez-les!
Concrètement, je suis un peu embêté. On peut rien faire parce qu'ils ont rien fait.
Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un couple?
Bah oui, ils ont pris notre supplément du non?
C'est moi qui le veux.
Toi, mais pourquoi faire? Si j'étais avec son copain, je te regarderais même pas.
Putain, mais sors de ton délire, c'est des activistes. T'as pas compris qu'ils essayaient de me recruter?
Donc des musulmans homosexuels?
Il a bu 2 canettes de coca à la suite et même 3.
Et le coca avec ou sans glaçon?
Il faut abattre un monde pour en laisser surgir un nouveau.